Bonjour à toutes et à tous. Je me présente François Coulombe-Roson, étudiant au baccalauréat en théâtre. Le balado de Levé de Rideau se trouve en marge de la 10e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval. Ce festival se veut une plateforme de diffusion, d'expérimentation, d'apprentissage et de partage de la création artistique. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook dans la description afin de découvrir notre merveilleux projet. Ce balado répond à notre besoin de comprendre les rouages de la machine théâtrale au Québec. Pour y parvenir, nous voulons interroger les acteurs du milieu pour qu'ils nous offrent leur vision et leurs outils afin de mieux comprendre l'écosystème artistique à Québec. Dans ce 5e épisode, ma collègue Noémie et moi rencontrons la présidence d'honneur du festival, Olivier Artaud et Fabien Piché. Ces personnes représentent des emblèmes du mouvement LGBT en danse et au théâtre. Nous cherchons à comprendre le processus de création en duo, on explore leurs fonctions respectives comme ambassadeurs dans l'écosystème du spectacle et on parle de connexion avec l'autre avec un grand A. Bonne écoute.
Bonjour, bienvenue au podcast Levé de Rideau. Aujourd'hui, je reçois Olivier Artaud et Fabien Piché, qui sont notre présidence d'honneur et ils sont aussi des artistes.
Donc, Fabien est un artiste en danse qui s'intéresse à la fois au bricolage et à la poussière d'étoiles. C'est un artiste qui a travaillé beaucoup pour Alanic Factory. C'est également un chorégraphe qui travaille en théâtre. Il est très, très, très impliqué dans la communauté de Québec, notamment à la Maison pour la danse de Québec. C'est un artiste aussi visuel, donc il s'intéresse au collage et à des petits zines en développement, mais ça ne s'appelle pas un zine, c'est comme une espèce de petit kaléidoscope d'images succinctes qui rappelle le toucher. Bref, il y a une démarche personnelle qui est évolutive, qui mêle le bricolage et le mouvement.
Wow!
Ben, je ne sais pas.
Je me redécouvre.
Olivier Artaud, artiste en théâtre, principalement ayant frôlé ou ayant flirté avec la danse également lors de sa formation à l'UQAM en danse. Il y a toujours un aspect réflexif très poussé, très près de ses instincts. Olivier s'intéresse aussi au travers de la condition humaine en insistant sur l'autodérision et la part de bouffonnerie, en fait, parce que ce qui mérite une critique mérite un rire aussi en passant. Ça le fait toujours mieux passer. Olivier mène toujours plusieurs projets en même temps, de différents ordres, que ce soit des projets à grande échelle ou des projets à plus petite échelle avec sa compagnie de théâtre, Théâtre Cata. Je ne veux pas dire que c'est petite échelle, mais... C'est des échelles différentes.
J'aime ça, les bios vont prendre plus de temps que l'entrevue.
Oui. Olivier a un intérêt et un instinct musical très développé. Il y a toujours beaucoup de rythme dans ses mises en scène, dans la manière dont il dirige les interprètes aussi. Il jongle admirablement bien avec le fond et la forme. Il a passé par des études en sociologie aussi avant de faire une formation en danse puis en théâtre. Voilà, et Olivier Artaud aussi s'active à générer de superbes projets et à tenter de laisser sa trace au sein du Théâtre du Trident. En essayant de créer une synergie collaborative au sein de son équipe. Puis ça fonctionne admirablement bien.
Je retourne souvent dans les balbutiements, le début de votre vie.
Ah, yes.
Puis j'aime souvent savoir, c'est quoi qui a été l'étincelle qui a fait « Moi, je m'en vais en danse, moi, je m'en vais en théâtre. » Ça a été quoi le moment que vous avez fait « Là, c'est ça que je fais. »
Wow. Peut-être que notre parcours est inversé, mais dans le sens où moi, j'ai découvert ça dans un camp de théâtre à Rawdon. J'avais 7 ans, puis on nous a mis la toune Allegria du Cirque du Soleil. Et là, comme enfant, ils nous proposaient de mettre un masque neutre. Puis là, on mettait un masque neutre, puis là, il fallait vivre cette chanson-là. T'sais, mais juste en corps, juste en gestes. Et là, je me rappelle, parce que là, t'es derrière ton petit masque neutre, là, c'est un masque complet, qui tout ton visage est recouvert, fait qu'on voit juste tes petits yeux. Puis je me rappelle regarder mes moniteurs qui comprenaient pas à quel point je me défonçais sur Allegria, tu sais. Puis à quel point je vivais comme je vivais tellement tout ce qu'elle vivait. J'adorais cette chanson-là. Là. J'étais allé voir le film au cinéma avec mon père. Et c'est vraiment ma chanson préférée. Puis c'est tombé là-dessus. Puis après, je me suis dit, go. Ça y est. Fait que c'est pas le théâtre, vraiment. C'est plus le mouvement qui m'a amené au théâtre.
Je relate vraiment ce que tu viens de dire. Allégria réveille quelque chose. Mais je pense qu'on pourrait faire un sondage national.
Je comprends. Les diamants, puis tout au début de la toune. Clochette.
Ah, mais c'est ça, c'est le pouvant de la clochette, genre.
Oui, c'est complètement. Oui. Le début de la toune, moi, ça me fait frétiller.
Avant que tu parles, Fabien, quand tu réponds, j'ai oublié de présenter une invitée. Aujourd'hui, on a Noémie Lavertu.
Bonjour.
Notre directrice des communications qui gère le festival.
Oui, je fais aussi la production, la relation de presse et beaucoup de choses. Mais oui, c'est moi.
Incroyable. Bonjour. Elle va nous guider, nous aider. Quelle est ton étincelle?
Mais puisque la porte a été ouverte par Olivier, je vais aussi relater un souvenir du primaire, en fait. C'était, je suis allé un an à l'école primaire de Kakuna. Il me semble que ça s'appelle l'école primaire Vents et Marées, quelque chose comme ça. Puis, on avait des cours de musique avec une prof de musique avec des très, très grands cheveux bouclés. Je me rappelle, j'ai gardé une photo d'elle à la fin de l'année. Des jeans tie-out, une chemise blanche bouffante et des grands, grands, grands cheveux frisés, très volumineux. Je l'aimais beaucoup. Puis, elle nous mettait souvent le canon de Pachelbel, en fait, dans les classes. Puis, c'était des classes donc, de musique puis de rythmique. Puis, à ce moment-là, je ne sais pas si vous faisiez ça, mais je m'amusais beaucoup avec des maracas faites avec des boîtes de Pringles.
Les petites boîtes.
Non, les grosses.
Les gros, oui, les maracas.
Oui, c'était des super maracas. Mais je me rappelle quand elle mettait le canon de Pachelbel, puis on avait la possibilité de bouger. Là. En fait, c'était ça. Il fallait qu'on exprime les différentes trames d'instruments par le corps du canon de Pachelbel. Puis vous savez, tu sais, genre, ça monte, ça grimpe. Je me rappelle, genre, je me promenais partout, puis là, je sais que mon corps, il frappait les cymbales, genre, il frappait presque tous les instruments parce que c'est comme si j'avais pas conscience de tout ce qui dépassait. On dirait que c'était juste mon centre qui voulait s'exprimer. Puis...
Genre, la danse, c'est comme une pulsion, non?
Ouais, notre côté plus fluidique, je sais pas si ça se dit, mais tu sais, qui fait en sorte que là, tout à coup, c'est notre entité viscérale, vivante. Puis il y a une connexion avec quelque chose de même presque spirituel, tu sais, en fait. Ça nous élève, la connexion avec la musique, tu sais.
Mais puis le battement du cœur est déjà un premier rythme, tu sais. On est déjà habité d'un rythme à la base, constamment. Fait que c'est comme normal d'être encore plus propulsé par le rythme de nous.
Oh, wow, quelle belle transition.
Qu'est-ce qui peut-être fait en sorte que vous avez décidé d'aller là, de choisir d'aller voir le verre?
Ben, c'est très drôle parce que moi aussi, ça s'est fait un peu à l'inverse, en fait. Parce que moi, au tout début, je voulais danser quand j'étais jeune, puis après ça, c'était pas possible dans la région où j'ai grandi, à Trois-Pistoles. Puis fait que là, j'étais comme, je vais aller faire une école de théâtre. Fait que là, j'arrive à Québec, ici, au Cégep Garneau, puis là, en parascolaire, je faisais des productions théâtrales, tu sais. J'adorais ça, puis... Je regardais, je voulais me préparer éventuellement à faire des auditions pour une école de théâtre. Puis je regardais les cursus, puis ce qui m'intéressait vraiment le plus, en fait, dans les cursus, c'était genre cours de mouvement. Genre. Exact. Exactement. Fait que j'étais comme, pour être bon dans les cours de mouvement, je pourrais aller dans une école de danse, tu sais. Puis avant d'aller en théâtre. Puis là, j'ai fait mes auditions à l'époque, là. En fait, c'est très drôle parce que je jouais dans une pièce au 13 ici. Avec... C'était Rémi Saint-Michel qui faisait la mise en scène à ce moment-là. C'était Les Enfants du Paradis, bref. Puis, j'avais un petit rôle. Puis, donc là, j'ai fait mes auditions pour l'école de danse, donc pour le programme préparatoire. C'est une année supplémentaire de mise à niveau pour les gens qui n'ont pas vraiment dansé dans leur vie. Puis, après avoir fait une première année, là, après ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais il faut que je fasse une deuxième année. » Il y avait comme un rapport tellement intime dans la manière d'enseigner, tu sais, qui tout à coup est venu me parler, mais de manière fondamentale, tu sais. C'était ça la question, hein?
Oui, vraiment.
Ça, c'était garder ton sens ouvert, fait qu'on était toujours pendus à tes lèvres. Moi, après avoir été refusé dans les écoles de théâtre, hein, j'étais allé un an en Biélorussie apprendre les fondements du théâtre russe. Je sais pas, crinco, là.
Genre, comme t'as fouillé, genre, sur un site...
Sur Internet. Je sais pas, mes parents vraiment doutaient quand ils m'ont envoyé le premier chèque, parce que naturellement, c'est pas moi qui ai payé cette formation-là à cette époque. C'est ça, c'était une formation russe parce que la traduction de Stanislavski serait pas la bonne en français, bref. Fait que après un an dans une commune, j'étais allé en danse. Fait que moi, j'ai commencé par la danse. Puis après un an en danse, ben tous mes amis rentraient dans des écoles de théâtre. Puis j'étais orgueilleux. Puis j'étais genre, mais moi aussi, je suis capable. Fait que j'ai appliqué le 1er mars, le jour de ma fête. Puis là, je pouvais juste appliquer au conservatoire. Fait que j'ai appliqué au conservatoire. Puis
t'as tout donné.
C'est là que j'avais. J'ai tout donné à ce moment-là. Et ce que j'ai préféré, c'était le cours de mouvement aussi.
Wow.
À l'école de théâtre. Voilà, fait qu'on s'est rejoints tous les deux des années plus tard par le mouvement.
Mais dans un cours de mouvement que j'ai jamais fait, par exemple.
Non, mais on a comme vécu ensemble ce qu'on aurait aimé vivre, puis ben, on s'est retrouvés dans une résidence de mouvement. Donc, je faisais une petite sieste à la maison pour la danse.
C'est vrai.
Puis Fabien m'a juste salué en me frappant vraiment fort dans le chest. Genre une grosse tape dans le chest.
Comme ça, puis moi, il était sur l'autre bord d'un muret. Donc, le chest vraiment découvert, tu sais, puis il était caché de l'autre bord d'un muret, puis on se connaissait, tu sais, puis,
à peine,
puis j'appréciais tellement ton travail, j'étais en admiration devant ton travail.
Tu l'as frappé.
Là, exact!
Exact! C'est une belle tape de dos, là, tu sais, genre, tac!
Ouais. Fait que c'est notre premier contact physique, puis après, oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés vraiment différemment. Je pense que ça crée une connexion plus spirituelle par le corps, je dirais.
Mais puis, il y a aussi, ça demande, parce qu'on improvisait ensemble beaucoup, fait que si ça le fait naître une complicité, déjà, ça, c'est une complicité par le jeu, puis aussi une complicité par l'écoute, parce qu'il fallait qu'on continue de savoir. En fait, on savait pas où est-ce que ça allait nous amener, donc ça faisait en sorte que nos antennes étaient extrêmement ouvertes. Mm-hmm. On était à l'écoute, on était alerte. Fait que ça le fait en sorte que ça l'a créé, puis on s'est super bien entendu dans le travail. Puis fait que ça l'a créé tout de suite les bases d'une complicité qui éventuellement a amené à l'intimité plus tard.
Mais c'est juste, je pensais que c'était fou parce que nous aussi, moi et François, on n'a évidemment pas la même relation, mais comme on s'est rencontrés par le mouvement parce qu'on était en équipe dans le cours de mouvement, le seul cours de mouvement que j'aurais fait dans ma vie. Puis comme.
Mais il n'est pas trop tard.
Non, c'est vrai. Non, je suis encore jeune. Mais ouais, c'est vraiment spécial comme connexion, ce que ça a créé, genre.
Ouais.
Puis le lien que j'ai développé avec l'équipe, c'était comme à trois. C'était vraiment... genre, c'est différent. Je vous connais différemment, je crois, que les autres personnes.
Oui. C'est pas juste nos mots qui sont comme présents. Là. Je pense que c'est aussi cette attention qu'on portait chacun à l'autre, puis de se permettre de nommer des choses quand même profondes qu'on n'a pas fait. Jamais j'aurais pu faire ça si j'avais pas eu un contact aussi proche pendant un cours.
Ouais. Vraiment. Puis on n'apprend pas à se rencontrer de cette façon-là, jamais, en fait. C'est depuis le primaire jusqu'à ce cours-là, jamais on rentre en contact avec quelqu'un en disant on va s'abandonner puis se faire confiance que notre toucher va être communicatif puis va éteindre sur toi. Là.
Exact.
Puis est-ce que justement, peut-être, dans un avenir futur, comment voyez-vous ça? Pensez-vous qu'il devrait y avoir plus de lieux pour danser, pour se rencontrer? Comme qu'est-ce que
tellement.
Avez-vous pas des suggestions, mais une vision?
C'est une très bonne question, en fait. Par rapport à la communication, il y a quelque chose qui devient de plus en plus apparent puis présent dans ma pratique. C'est pas moi qui ai inventé, ça a juste été à la suite de différentes formations. C'est des mots que j'ai entendus puis qui résonnent très, très fort. C'est que quand on se déplace, on est en train de communiquer, tu sais. Fait qu'on est toujours en train de communiquer de manière non-verbale avec les gens autour de nous. C'est juste que je pense qu'on ne met pas notre attention à ce niveau-là. Tu sais, quand on marche dans la rue, il y a déjà, tu sais, des fois, c'est flou, hein? OK, est-ce que la personne va prendre à gauche, à droite? Puis là, tu fais, mon Dieu, c'est bien angoissant. Puis là, mais finalement, il y a une communication non-verbale qui existe. Je pense que juste de mettre le focus là-dessus, ou en tout cas de mettre l'attention là-dessus, tout de suite, ça nous permet de nous éveiller à la connexion à l'autre personne, au fait que, finalement, on n'évolue pas en vase clos. Tu sais, dans les contextes urbains, j'ai l'impression, même s'il y a beaucoup, beaucoup de gens, on se met comme une carapace.
Ouais.
Puis ça fait en sorte qu'on oublie ou on invisibilise l'interconnexion qui peut exister de base avec d'autres êtres humains autour de nous. C'est sûr que, j'ai un parti pris. Je pense que oui, il devrait y avoir davantage de contextes, mais de contextes différents, puis des contextes auxquels... C'est sûr qu'il y a plein de contextes auxquels je ne pourrais jamais penser parce qu'il y a des contextes qui sont hors institution, puis des contextes qui sont plus près de la vie communautaire aussi, j'ai l'impression, puis qui appartiennent à des branches culturelles aussi. Mais je pense que le fait de se rencontrer par le corps et par le mouvement dans des contextes ludiques, dans des contextes de rituels, dans des contextes autres, là, il y en a plus que deux. Là. Mais je suis persuadé que cette empathie-là peut nous rappeler, peut nous ramener à nous et peut nous ramener à l'autre aussi. parce que c'est un prétexte à communiquer.
Ouais, puis je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais, un jour, on va finir par laver nos parents. Là. Fait que tu sais, je me dis, si on n'a jamais communiqué avant par le corps, c'est quoi l'impact à un moment donné de la nécessité d'entrer vraiment dans des contacts intimes? On dirait que si on parfait pas cette culture-là corporelle, puis cette culture de la kinesthésie avec l'autre, mais je pense que c'est ce qui nous emmène aussi tout le temps à faire affaire avec des préposés aux bénéficiaires, etc. C'est juste de faire traverser la rue à une personne âgée. Des fois, c'est intimidant juste parce qu'il va avoir un rapport, un rapport physique qui va être impliqué. Fait que j'ai l'impression qu'on est dans une culture où le corps est de plus en plus mis à distance, en plus avec les écrans puis tout ça. Bon, puis là, c'est sûr que c'est un autre de mes terrains de prédilection, c'est tous les enjeux liés à la porno, mais à quel point ça aussi, ça nous déconnecte d'avoir un rapport comme... C'est quoi le rapport charnel qu'on entretient au quotidien, même à l'érotisme au quotidien? Fait que j'ai l'impression que tout nous mène à développer une certaine barrière puis à oublier finalement toute la porosité de cette communication-là qu'évoquait Fabien. Mais moi, j'ai une question pour le fun, là. On n'est pas si loin, mais on est quand même en âge, là, je parle. Mais il y a quand même un petit gap. C'est quoi que vous ressentez comme... vous autres, c'est quoi le rapport au corps? C'est quoi la sensualité au quotidien dans vos vies?
Je pense, j'arrive quand même avec une certaine réflexion, là, mais... Je pense dans un peu la lenteur du quotidien. Pour moi, c'est un peu comme le film Amélie que met sa main genre dans un sac de je ne sais plus quoi, mais tu sais, les textures, les sensations. Mm-hmm. Je pense de prendre le temps de faire hey, ça vient d'arriver, genre, ou les sons aussi. Moi, les sons particulièrement, ça m'intéresse. J'aime ça des fois m'arrêter, puis j'entends une goutte tomber, puis je vais juste arrêter ma marche pour écouter la goutte tomber et je vais prendre le temps juste de faire c'est vrai. C'est l'exemple du son, mais vraiment aussi avec les corps, je pense, de tranquillement, tu sais, quand on faisait justement notre cours de travail théâtral, il y avait cette idée de prendre le temps d'accueillir l'autre, puis j'ai un peu volé ça dans des formations en danse, mais c'est juste de, OK, j'arrive, je suis pas pressé de partir. Oui, c'est peut-être, il y a peut-être un inconfort au début parce qu'on est désensibilisé, mais c'est ça, mais il y a prendre le temps.
Oui, le temps, c'est vrai.
Mais pour moi, je veux plus parler de mon rapport au corps, je pense, là, puis comme à mon propre corps. Mais je suis encore quand même assez jeune, là, fait comme je pense que c'est encore en découverte. Mais je fais de la danse depuis que j'ai... ça doit faire 15 ans, là, puis j'ai 20 ans. Là, fait comme, ça fait un bout, là.
5 ans.
Oui. Ben, je suis en maternelle. Là, fait comme, oui. Je faisais du ballet parce que je voulais être une princesse. J'ai jamais été une princesse, mais je faisais du ballet quand même. Puis, c'est comme... En fait, c'est un rapport... Comme moi, j'ai toujours aimé danser pour me libérer. Puis c'est comme un moment où je suis obligée de prendre du temps pour moi. C'est que moi, en fait, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à vivre avec de la douleur chronique, genre. La douleur que je vis au quotidien, c'est un peu comme si je faisais de l'arthrite. Fait que depuis 4 ans, ma vie, c'est comme un peu de vivre avec les limitations de mon corps. Genre, qu'est-ce que mon corps m'empêche de faire? Puis à chaque jour, c'est souvent un nouveau deuil, genre, surtout quand c'est des plus gros moments, des plus grosses journées, ou comme je suis plus fatiguée, ça commence à être vraiment dur des fois d'être comme, ben tu sais, j'ai 20 ans, puis je suis plus capable de faire ça. Genre, j'ai 20 ans, puis comme une marche de 20 minutes, pour moi, ça se peut pas. Genre, j'ai 20 ans, puis comme les cours de danse que je faisais il y a 5 ans, je peux plus faire la même chose. Puis les filles, justement, avec qui j'ai évolué, ben eux, ils avancent puis ils ont envie de continuer. Mais moi, je peux faire de moins en moins de choses puis je suis de moins en moins capable. Tout ce que la maladie m'a apporté, j'ai pas envie de l'enlever nécessairement. Je me dis comme ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître puis d'apprendre à mieux poser mes limites un peu. Puis c'est quand on est arrivé, quand je suis rentrée dans le bac en théâtre puis il y avait le cours en mouvement, je suis comme, je suis jamais capable de faire ça. Genre, c'est comme, je rentre là, faut que je bouge n'importe comment pendant 45 minutes. Genre, moi, j'ai physiquement... Je suis un peu une madame de 75 ans des fois, là. Fait que c'est comme, genre, je peux pas faire ça, puis j'ai beaucoup de misère à exprimer ça, genre. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que le mouvement, montrer les limites que j'ai dans mon corps, c'est une vulnérabilité. Puis j'essaie d'apprendre à vivre avec ça. Puis je pense que c'est quand on a pris le cours de mouvement, qu'on est parti en petite équipe, après j'ai comme eu le sentiment qu'il fallait que je partage, parce que je déteste tout le temps ça quand je commence une job, quand je commence quelque chose... C'est comme, il y a comme le moment où il faut que je fasse l'aveu un peu que genre, je suis pas autant bonne que ce que je devrais, ou bref, c'est pas être bonne, mais Fait qu'il y a comme ça, puis je pense que quand on se rencontre par le mouvement, j'ai plus ressenti une facilité à dire comme, ben comme moi je suis comme ça, c'est ça mes limites, puis même si j'étais pas malade, j'aurais le droit d'avoir des limites, puis j'aurais le droit de pas être capable de me rendre plus loin, puis j'ai pas à justifier qu'est-ce que mon corps est capable de faire. Fait que voilà, mon rapport au corps, c'est un peu une lutte au quotidien, mais...
C'est beau, je trouve, parce que c'est justement ce partage-là, c'est parce qu'on parle du corps qu'on vient parler de vulnérabilité, puis quand on se voit bouger aussi, c'est là qu'on voit nos bagages socioculturels, c'est ma manière de bouger, mes poignets, c'est parce qu'il y a quelque chose d'acquis avec ça. Fait que je trouve que c'est quand on bouge qu'on parvient à cette forme d'intimité.
Oui, puis il y a une quête aussi d'embrasser, justement, quand tu arrives à bouger de manière, puis je pense que c'est un mot peut-être un peu controversé, mais en quête d'authenticité, là, ben, c'est comme si ça donnait accès à connaître la personne. Si on peut connaître par la voix, déjà, on a accès à une intimité, par le chant, mais aussi par le fait de bouger, justement, pour compléter ce que tu dis. Puis si on arrive, là, c'est une grande quête, là, mais si on arrive à comment dire, à embrasser l'entièreté de son identité à travers, justement, ses forces et faiblesses, là, ben, ça fait en sorte que ça diversifie encore plus, puis ça enrichit le « nous », tu sais. Puis ça, je trouve ça magnifique, en fait, si on essaie de mettre la performance, puis, en tout cas, la quête de l'anxiété de performance ou le culte de la performance un tout petit peu de côté, puis qu'on se pousse, puis que réellement, on arrive à se découvrir.
Mais on parlait de se rencontrer par le mouvement, mais comme je pense qu'on se rencontre soi-même aussi par le mouvement.
Ah, tellement! Oui, parce que je trouve que les idées, en fait, c'est souvent une manière de s'étiqueter. T'sais, c'est comme facile de dire qui on est avec des mots, parce qu'on les choisit, puis dans le fond, c'est ce qu'on va dire va être perçu comme la vérité pour la personne en face de nous. Mais c'est aussi une autre de mes fascinations, mais le paradoxe entre ce que le corps est et ce que la tête dit, c'est exactement dans ce paradoxe-là qu'on atteint cette authenticité-là. Parce que, bon, Fabienne disait galvauder authenticité, parce que je pense qu'on ne peut jamais nommer qu'on est authentique, parce que juste le fait de nommer, c'est déjà d'avoir un regard réflexif. Donc, on la manipule, tu sais, cette
authenticité, elle est fabriquée. Là,
Oui. Tandis que quand on est à la frontière entre le geste, puis comme quand tu t'es animé pour Allegria, je pense que c'est là qu'il y a, c'est là qu'on trouve la vérité. Là. Oui.
Mais quand on arrive à déjouer... c'est ça. Quand on arrive à déjouer tous les petits mécanismes qu'on a bâtis pour exister socialement, puis justement tâcher de bâtir, de colmater des brèches qui donnent accès à notre vulnérabilité, c'est vrai tout à fait. Quand on arrive à déjouer ça, là, tout à coup, il y a comme l'essence.
Puis, si je comprends bien, c'est qu'il parle... Peut-être que des fois, je m'avance, mais la psychologie est peut-être, va être une façon de fonctionner par le travail avec un psychologue, un psychothérapeute. Mais par le mouvement, tu peux aussi aller justement chercher les petites brèches de vulnérabilité où est-ce qu'il y a des micro-mouvements qui peuvent indiquer autre chose. Puis peut-être que toi-même, via ça, tu peux passer par-dessus une étape puis montrer une autre sensibilité que tu as. Si je...
Ben, ce qui me touche là-dedans, c'est qu'on n'est pas juste une affaire. Puis donc, pour ça, il n'y a pas juste une solution ou il n'y a pas un scénario qui peut convenir à tout le monde puis qui peut nous convenir aussi à différents moments de notre vie. T'sais. Fait qu'aussi, moi, je suis ce qui me touche beaucoup puis ce que j'embrasse, c'est la multiplicité des points de vue puis la multiplicité aussi des champs d'action. T'sais. Qu'on peut déployer. Comme ça, on arrive à... Comme ça, pour moi, ça me permet d'éviter de déjouer le fait d'être étiqueté. Puis ça permet d'être un peu plus insaisissable, ou en tout cas parce que la vie est insaisissable. Tu sais.
Mais ça me fait penser aussi à, tu sais, dans les manières de comprendre ou de porter un regard sur la santé mentale. Puis tu sais, t'as nommé, il y a la psychologie, puis souvent, il y a le sport. Il n'y a quand même rien entre les deux. Cette espèce de psychologue du mouvement, ou en tout cas dans la somatique, ça existe, mais c'est tellement pas des pratiques qui sont valorisées d'essayer de se comprendre à travers le corps sans être dans un corps performant qui veut avoir des gains puis manger ses protéines, puis sans être juste dans un rapport assis hyper cérébral d'une consultation psychologique. Fait que moi, je pense que ce qui témoigne de ce manque-là à combler dans la société, c'est le fait aussi que il y a peu de pratiques qui se retrouvent.
C'est ça. Est-ce que comme le fait que justement il n'y ait pas cette différence, il n'y ait pas vraiment de pratiques entre les deux qui sont plus reconnues, est-ce que comme ça se transmet pas dans l'art? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on va au théâtre, mettons, de comme se purger de ça sans s'en rendre compte vraiment?
J'avais déjà entendu parler que être sur scène, en fait, c'était une manière de guérir son propre corps et c'était une quête de guérir aussi le corps, comme un corps collectif, en fait. Fait que justement, il y a quelque chose là-dedans qui, je trouve, donne beaucoup de sens, tu sais. Puis des fois, c'est... j'ai un peu peur d'utiliser ces mots-là parce que ça peut sembler présomptueux, tu sais. Mais si tu abordes ta pratique, tu sais, doucement, en filigrane, en étant comme une manière de travailler à se guérir collectivement, on dirait que ça ouvre une infinité de portes, tu sais.
Puis si on prend l'exemple de « Je veux participer au chaos », est-ce que vous avez... Parce que personnellement, le spectacle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une heure de, en fait, de représentation où est-ce qu'on vit un accident de voiture et ensuite on est transporté dans un dance floor live, un DJ set live, avec effet stroboscopique, lumière, éclairage, tout. Et de votre côté, est-ce qu'il y a eu un effet sur une certaine transcendance sur la scène? Ben, je sais que toi, Olivier, tu n'étais pas sur scène, mais peut-être que...
Non, j'ai quitté juste avant d'y mettre le pied. Mais oui, non, je comprends par rapport au processus, par rapport à... C'est une bonne question dans le sens où j'ai l'impression que ça opère quand il y a le public.
Oui.
Parce qu'avant, on est comme dans... Je pense que la période de la recherche est rarement... entre guillemets, salvatrice, ou je pense aussi qu'il faut qu'elle soit aussi distanciée d'une forme d'auto-soin ou d'auto-guérison, dans le sens où faut que la recherche s'articule pour une communication qui est à l'extérieur de nous. Moi, je pense que je crois beaucoup au fait que c'est en voulant communiquer, non pas en voulant se guérir soi-même, qu'on va parvenir à créer un réel contact. Oui. Puis ce qui arrive dans des spectacles où... Je pense qu'ils deviennent un peu plus hermétiques, c'est parce qu'il n'y avait pas la réflexion de vouloir le transmettre puis de vouloir faire un échange en direct. Mmh. Moi, pour avoir vécu l'intérieur puis pour l'avoir vu, j'ai l'impression que quand je l'ai vu, j'ai été transcendé davantage parce que je recevais la charge, je recevais la pulsation, puis ça faisait appel directement à mon corps, surtout dans une programmation où il y a rarement de la danse comme au Périscope. T'sais. Fait qu'en plus, ça déjoue nos habitudes. T'sais. Tandis que quand je m'en vais voir un show de danse, je suis déjà dans un a priori qu'on va faire appel à mon affect. Puis tout de suite, il y a une petite frontière, un petit mur. J'ai l'impression que la manière dont on vend nos spectacles, c'est aussi un filtre qui fait en sorte que on veut avoir ce filtre-là, mais il faut savoir comment on parvient à créer l'osmose entre ce qu'on nous a dit puis où est-ce qu'on se révèle, tu sais, à travers ça. Oui. Fait que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça parce que c'était kinesthésique, ça fait appel à mon corps. Puis quand on était à l'intérieur du processus, c'était autre chose parce que c'était beaucoup plus on va explorer notre violence, on va explorer. Puis là, quand ça parle de soi, des fois, moi, je cherche le moment du dialogue. Mais aussi, je saute des étapes, je brûle des étapes, puis je veux tout de suite savoir pourquoi on le communique. Mais pour moi, c'était plus... la période de guérison de soins était plus forte comme spectateur que comme participant.
Ben, je pense aussi, c'est extrême, ça résonne beaucoup, là, ce que tu dis, Oli. L'idée de garder, comment dire, comme une espèce de torche allumée là, dans son bras, tu sais, le processus sert à communiquer quelque chose, en fait.
Oui.
Ben, communiquer un message qui soit compris ou non, là, mais tu sais, ces moments-là sont toujours sacrés et extrêmement précieux, que des gens se déplacent ou qu'on se déplace, mais que des gens se déplacent pour vivre un moment ensemble de temps présent, puis de, comment dire, dans la même pièce. On partage même presque le même souffle d'un point de vue plus symbolique. Ouais. Fait que je pense qu'il faut garder ça en effet en tête, puis je partage ton vécu, en ce sens que quand on était en train de construire le spectacle, on était beaucoup plus pris avec des casse-têtes, là, tu sais, de structure, de qu'est-ce qu'on est en train de travailler, puis comment est-ce qu'on travaille chaque texture physique, puis comment est-ce qu'on arrive à assembler ce casse-tête-là pour que ce soit cohérent déjà pour nous à l'intérieur, mais aussi pour la quête de sens, là, pour les gens qui nous guidaient de l'extérieur. Fait que oui, exactement. Je dirais que la part de guérison, s'il y en a une, elle se passe, premièrement, ben, on ne peut pas la contrôler. Puis, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Je pense que c'est beaucoup plus fort quand on est ouvert au fait qu'elle peut même nous surprendre, en fait, puis qu'elle se manifeste d'un endroit qu'on n'a pas vu venir. Puis, ben, il se passe dans ce moment de partage-là, en fait. Puis ce moment de grande vulnérabilité puis de vertige, mais aussi d'inconnu, qui est la représentation, tu sais.
Parce que, tu sais, c'est comme un avocat qui décide de plaider puis de défendre quelqu'un. Excusez, l'analogie paraît vraiment saugrenue, mais, tu sais, à la base, il a choisi ce métier-là parce que, par exemple, la rhétorique allait le valoriser, mais il n'a pas le choix de le faire pour quelqu'un d'autre, tu sais. Puis c'est la même chose pour tous les métiers. Un prof, sûrement, qui trouve sa valorisation dans le fait de pouvoir bien schématiser ses idées-là, puis de pouvoir transmettre des connaissances, puis ça le valorise. C'est la partie de la valorisation que... Nous, artistes, on veut, c'est qu'on est censé être des émetteurs de sensations, d'idéologies, blabla. Mais il ne faut jamais oublier pour qui on le fait. Un avocat ne plaiderait pas sans son client. Puis je trouve qu'en art, souvent, une fois sur deux, on oublie qu'il faut le faire pour quelqu'un. Je trouve que puis là, on dirait que moi, ça m'apparaît d'autant plus clair une fois que je suis arrivé à la direction artistique du Trident, parce que là, le public vaut autant que la pratique des artistes. Mais... Quand on parle de nos démarches, il faudrait parler de ce qu'on veut susciter et non pas de ce qu'on va faire pour soi. Je sais pas, je m'excuse, on dirait que je suis... Non, mais je trouve que des fois, comme artiste, on oublie vraiment que faut tendre l'oreille pour tendre la main. Puis il y a comme des fois une déconnexion entre nos pratiques personnelles puis les gens avec qui on veut communiquer, tu sais.
Oui. Bien, là, on va aller vers les créations, plus de créations. Donc, Made in Beautiful, de Guy Dangravel, c'est du langage. Bien, en fait, c'est deux spectacles complètement différents, là, mais je pense que Guy Dangravel est plus cru en tant que tel. C'était quoi la base de ce spectacle? Qu'est-ce que tu voulais exprimer comme idée? Qu'est-ce que tu voulais que le spectateur quitte dans son petit verre et qu'il fasse « j'ai été touché ».
Bien, je pense que je voulais parler à mes parents du monde dans lequel on vit puis de la manière dont on nous a enseigné la sexualité. Tu sais, moi, mon premier contact, c'est d'avoir vu des fichiers téléchargés sur LimeWire par mon frère qui a 11 ans de plus que moi, tu sais. Puis j'avais 10 ans. Fait que, tu sais, ça part de là. Puis c'était un peu de témoigner à la génération dessus, parce qu'il y avait le personnage de la mère aussi qui est hyper important dans Doug Dangravel, c'est de dire... Je viens de là, je pense pas que ça fait de moi une mauvaise personne, mais c'est le bagage culturel que j'ai, duquel t'auras pas d'emprise. Oui. Fait que comment je peux te faire rencontrer le bagage culturel que j'ai comme jeune adulte en étant confronté à ton éducation, puis en se disant maintenant, est-ce qu'on peut essayer de blender les deux puis se trouver à un point de rencontre? Je pense que ça a été vraiment le but des premières créations. C'était la même chose avec Made in Bee, mais là, j'ai voulu faire le sens inverse en se disant « Nos parents ont vécu, pour la plupart, les deux référendums. Je trouve que c'est une part politique que nous, on est dépolitisés de cette grande période-là du Québec. » Puis là, c'était de dire comment nos aïeux peuvent enseigner à la plus jeune génération un legs politique extrêmement fort. Puis après, nous, de dire, ben nous, on arrive avec une volonté qu'il y ait un petit peu plus de souplesse dans l'idée du français, du nationalisme, puis comment qu'on peut se rencontrer entre les deux. Fait que je pense qu'à chaque fois, ça a été une manière... Je me posais toujours la question, qu'est-ce que je pourrais dire par le biais du théâtre à mes parents qui me permettrait de passer des messages soit sur la sexualité, soit sur le nationalisme ou le fait qu'une génération est un peu plus dépolitisée sur certains aspects. Puis, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Puis, quel dialogue ça va créer au centre? Fait que c'était vraiment... c'est comme si je me disais, je suis en théâtre, ils savent pas vraiment ce que je fais, j'ai des messages à dire, puis je vais les mettre en scène, parce qu'il y a tout le temps aussi l'idée de ces mères-là. Fait que c'est toujours des familles où le matriarche est extrêmement important. Puis je pense que c'était une manière de parler à ma mère puis de lui dire merci pour ton legs, puis voici le mien, puis où est-ce qu'on se rejoint entre les deux. Puis une fois, je pense que je me suis débarrassé de tout ça, je pense que j'ai commencé par la création à pouvoir parler plus du nous puis de parler avec un petit peu moins de filtre, moins de personnages, d'où l'idée de pisser, de vous enlever sa jupe où chacun porte son propre nom, puis de commencer à travailler avec les humains qui sont devant moi, puis de quitter l'idée du persona. Mais la base de ces créations-là, ça a toujours été de comprendre des enjeux, soit politiques ou sexuels, en parlant à ma mère.
Puis c'est Debout, s'enlever sa jupe. Ouais. Elle va être présentée au Périscope du 7 au 18 mai, cet été, pour ceux qui veulent y aller. qu'est-ce que comme de ce que je comprends, c'est que tu as effectivement enlevé ton filtre, ça t'a touché, puis tu sembles avoir aussi un destinataire, c'est tes parents. Tu parlais justement d'avoir une personne en tête, puis si tu vises tes parents, tu vises pas juste les tiens au final.
Ben non, bien sûr que non.
Tu vises tous les autres. Exact. Puis tu as fait l'inverse avec l'idée de Made in Beautiful, d'aller chercher un l'inverse de dire à notre génération,
exact.
Yo, qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Ouais.
Puis dans le contexte de là, de Pis c'est debout, va te permettre de faire?
Pis c'est debout, c'est de critiquer cette idée-là qu'on est une communauté LGBTQIA+, puis qu'on est une communauté à risque, dans le sens que, oui, on vit des enjeux qui peuvent être dangereux dans certains contextes, etc. Mais c'est de dire, c'est pas parce que tu fais partie du sigle que nécessairement tu portes en toi une forme de... C'est pas parce que tu es immunisé d'un tas d'autres affaires. Fait que l'idée, c'était de dire, quel est le paradoxe dans chacun de ces interprètes-là pour qu'ils en viennent à dire, ah ben oui, je peux être fragile sur certains aspects, mais sur d'autres, je suis une personne dominante et impérialiste. Puis, ben, j'essaie d'assumer ces travers-là à travers un groupe d'amis. Fait que c'est comme si là, avec l'âge que j'ai, j'essayais plus de parler à nous autres, puis à se dire, bon, c'est quoi cette idée-là de communauté? C'est quoi cette idée-là d'authenticité? C'est quoi ces visions-là qui nous traversent? Est-ce qu'on est vraiment woke ou est-ce que finalement on est rempli de paradoxes? Fait qu'encore une fois, c'est des personnages qui ont énormément de défauts. Là. Tous mes spectacles, c'est du monde qui en arrache, ou du moins que leurs défauts sont plus importants que leurs qualités. Fait que c'était une manière aussi de critiquer notre cercle d'amis, puis de se dire, à 30 ans, on est rendu où? Avant, on se déguisait en ado pour parler d'une époque révolue.
Ouais.
Après, on a voulu parler d'une époque révolue parce qu'on était en 95. Puis là, c'est de se dire, là, à 32 ans, sur quel sujet on est révolu déjà, puis qu'on a du chemin à faire.
Non, mais ça...
Grand
ça
résumé.
Mais, puis est-ce que tu y vas d'un angle, je veux dire, moralisateur, ou tu es plus dans la description, comme tu veux que la personne quitte le spectacle en...
Comment?
Ouais.
Femme?
Ben, il y a différents degrés de lecture, tu sais, puis je pense que chaque personne va y trouver le degré de lecture qui lui convient, tu sais. C'est sûr qu'en ayant fait partie du processus, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton écriture, puis dans la manière dont on a embrassé ça comme gang, c'est que ça demande un bon niveau d'autodérision, puis d'autocritique. Parce que quelles sont les places dans les plateformes artistiques ou même dans les plateformes politiques ou sociales, quelle est la place pour réellement se regarder en tant que peuple puis se parler dans le blanc des yeux puis se dire, ben voici, je pense qu'on est un peu raciste finalement, la gang.
Ouais.
C'est tellement un sujet délicat que même si le fait d'évoquer cette autocritique-là... c'est comme si ça passait une fois sur deux, tu sais. Puis, je trouve que ça, c'est une des grandes forces du texte, entre autres, tu sais, notamment par rapport au biais raciste, mais aussi par rapport au biais de, comment dire, toutes les excuses qu'on peut se donner, puis moi, j'en fais partie, mais toutes les excuses qu'on peut se donner, finalement, pour ne pas prendre part à l'engagement environnemental, à une plus grande équité sociale, tu sais, à la répartition des richesses. C'est comme si le temps de ce processus-là, c'est comme si on se disait, hey, la gang, il ne faut pas oublier qu'on a embrassé le capitalisme, mais avec tous nos membres, en fait, avec tous nos organes. Fait qu'il y a ça aussi qui est extrêmement troublant. T'sais. Puis je pense que c'est ça aussi des fois qui fait en sorte que ça devient insupportable. Puis c'est là qu'après ça, on se braque. En tout cas, clairement, moi, ça m'est arrivé, mais on se braque parce qu'on fait, hey, non, mais là, la critique est tellement virulente que tu fais, OK, bien là, l'espoir se porte où, tu sais. Mais je pense qu'il y a aussi plein de notes d'espoir dans ce spectacle-là qui fait en sorte qu'il y a un moment très, très fort. Je ne volerai pas le punch, mais il y a un moment très, très fort qui fait en sorte que, tu sais, je vous ai dit, la voix permet d'avoir accès à l'intimité d'une personne, à l'identité d'une personne, puis quelque chose d'universel. Puis qu'est-ce qui se passe quand cette voix-là n'émet pas de mots, donc n'émet pas de codes ou de symboles qui font rapport à la construction du langage et à la rationalité, tu sais? Fait que je trouve que là, il y a quelque chose de vraiment intéressant parce que là, c'est comme si ça partait de l'individu, puis ça, il y a la quête de verticalité de cette personne, mais qui tout à coup se répand à l'horizontalité aussi, tu sais. Bref, venez voir le show, là. Venez voir le show.
La curiosité est piquée.
Oh, yes. Puis par le corps aussi, parce que le langage du corps est omniprésent grâce à toi dans le spectacle.
Mais oui, en fait, parce qu'il y a aussi cette force-là, c'est que... Oli t'écrit des dialogues très punchés, tranchants. Aussi, les monologues donnent à avoir accès à beaucoup de vulnérabilité puis de complexité dans chacun des personnages. Mais aussi, tu as une sensibilité pour l'écriture scénique et l'écriture du corps sur scène aussi. Fait qu'il y a toujours un dosage à trouver aussi. Là. Ouais. Dans tout plein de spectacles, on dirait qu'on ne le questionne pas dans des spectacles de danse parce que tu dis « Ah, ben le médium principal, ce sera le corps, donc mettons-en. » Tu sais, il y en aura à volonté. Mais dans des spectacles de théâtre, il peut y avoir un débalancement aussi. Tu sais, trop de danse, finalement, tu fais « Eh bien, je pense qu'on passe un tout petit peu à côté du rythme.
Ouais. »
Puis bien, pas assez, bien là, ça fait juste te garder salivé. Mais je pense que l'équilibre...
Justement, dans ce travail de chorégraphie-là que tu fais, tu as participé à plusieurs projets, puis tu m'en participes à plusieurs autres. Mais comment ça arrive comment tu fais ce travail-là de chorégraphie, de mouvement?
Bien, c'est, il y a plein d'ingrédients qui déjà sont primordiaux. Là. Pour moi, bien, c'est sûr qu'il y a la collaboration puis le dialogue déjà avec le créateur ou la créatrice, qui est extrêmement important. Comme je disais, Oli a déjà une sensibilité très forte et très assumée aussi sur la place que le corps doit prendre. Fait que les germes d'idées, puis même les situations sont souvent très claires, t'sais. Notamment dans les collaborations, dans les projets avec Oli, pour Pisser debout, pour L'éveil du printemps. T'sais, Oli arrive déjà avec un setup, t'sais, avec une dramaturgie, avec un cadre, avec des contraintes, t'sais. Puis même avec une volonté. Fait que on peut même dire que les germes chorégraphiques, c'est Olivier qui les porte dans les spectacles dans lesquels on collabore. T'sais. Puis après ça, ben il m'envoie ces projets-là ou ces canevas-là. Puis après ça, moi, de mon côté, je vais générer la gestuelle, en fait. Puis après ça, on va être en échange pour essayer de peaufiner la gestuelle puis d'y trouver un propos, tout en me laissant beaucoup de liberté sur quel geste, tu sais, puis quelle énergie, puis quelle dynamique. Mais collaborer avec Oli, c'est pas comme... C'est particulier, justement, parce qu'il y a déjà un instinct chorégraphique très fort et assumé. Tandis que dans d'autres projets, bien, il y aura davantage de liberté, puis il y aura, une porte encore plus ouverte sur de quelle manière est-ce que les corps vont devoir bouger, vont devoir s'agencer. Puis c'est sûr que c'est pas la même chose non plus de travailler sur mon propre corps ou travailler sur le corps de quelqu'un d'autre ou de plusieurs personnes à la fois, tu sais.
Oui. Ouais. Puis dans cette idée-là, justement, vous parlez beaucoup de création. Vous créez individuellement, vous créez ensemble, puis vous créez aussi via la compagnie Théâtre Cata. Mm-hmm. Plus du point de vue de la création ensemble, comment est-ce que votre processus se fait?
Ça dépend des projets, mais plus récemment, autant pour Pisser debout que L'éveil, je pense que Fabien l'a assez bien décrit dans le sens où il y a une idée de base. Là, déjà, il y avait des textes, il y avait des pièces. Pour David Paquette, il n'y avait pas de pièce encore pour L'éveil du printemps, mais il y a au moins une idée de base. Puis là, il y a des canevas chorégraphiques qui sont établis à des moments précis.
Qu'est-ce qu'un canevas chorégraphique?
C'est peut-être une idée, mais par exemple, pour L'éveil du printemps, il y avait cette idée-là qu'au début, c'est des chorégraphies qui témoignent plus d'une injonction. Fait que la corde à danser, c'est comme une injonction sportive d'être performant, puis qui rappelle la cour de récré. Après, les bureaux aussi, c'est une autre injonction. Puis c'est des injonctions parce qu'il y a des instruments en place. Là. Okay. Il y a un bureau, il y a des cordes à danser. Fait que c'est comme si c'était le corps social qui prenait plus le dessus. Aussi, c'est des chorégraphies où il fallait qu'ils soient synchro. Pour arriver après dans une chorégraphie de la pente où là, on est plus dans quelque chose qui est expressif, qui parle plus de l'intérieur. Fait que, tu sais, mettons, ce canevas-là était quand même assez clair pour L'éveil du printemps. Avec, tu sais, aussi, on est contractuellement, Fabien a un nombre de minutes chorégraphiques. Tu sais, il y a ça aussi qui vient comme altérer un peu le parcours. Puis, ça sera la même chose dans le prochain spectacle qu'on est en train de développer. C'est d'avoir comme des moments clés. Puis, dans ces moments clés-là, on crée. Mais je dirais que la création la plus importante, puis je veux pas sonner quétaine ou licheux là-dedans, mais je pense que c'est tout ce qui n'existe pas dans la salle de répétition puis qui n'existe pas quand on parle du projet. Je trouve que là, en ce moment, pour moi, on est plus en train de créer que quand on va créer du mouvement chorégraphique puis quand on va avoir des commandes claires. C'est comme si c'est le dialogue qu'on entretient depuis 3 ans qui est la création beaucoup plus que ces résultats-là, dans le sens que on est en train d'altérer notre pensée en ce moment comme artiste. Puis je pense que c'est là qu'on se rapproche davantage. Puis ben une fois qu'on est sur scène, mais c'est le nanane, c'est notre manière de communiquer où on en est par rapport à cette réflexion-là. Mais la création en soi est bien plus autour de l'îlot de cuisine puis la chambre à coucher, dans le sens que c'est là que c'est là qu'on, pour moi, on crée. T'sais.
Puis j'entendais la dernière fois, je prenais part au réapprentissage d'une performance, là, puis la personne qui nous le montrait, je demandais, je disais merci pour votre confiance, d'abord. Puis elle me disait, ben pour tout geste artistique, en fait, ben ça prend, c'est nécessaire qu'il y ait déjà un aveu de confiance. Mmh. Puis je trouve que ça résume très bien la manière dont on continue de développer notre collaboration, puis de la manière dont ça coule un tout petit peu, où ça... par capillarité, en fait, ça vient rejoindre ou influencer aussi l'intimité qu'on partage. Mais c'est que cette confiance-là se décuple, s'enrichit, se bonifie. Puis, ben c'est qu'on a nécessairement besoin de confiance pour bâtir une relation avec quelqu'un. Puis, on a nécessairement besoin de confiance aussi pour vivre un processus artistique qui soit entier, satisfaisant et respectueux. Ça, je pense qu'en effet, c'est juste le nommer comme ça. T'sais. C'est quand on arrive en studio après ça, ben oui, il va y avoir une jonglerie avec différents concepts, différentes idées, puis beaucoup d'adaptations. T'sais. Comment est-ce que le corps des personnes en studio va réagir aux idées? Puis aussi, comment est-ce que ces idées-là vont aussi nous affecter une fois qu'on les a extraites de nos cerveaux? T'sais. Mais je pense que, ouais, en effet, ça dépasse complètement le cadre du studio, puis de manière plus concrète aussi, il y a des réunions de conception. On essaie quand même de garder ça tout de même assez, un peu encadré, là, les périodes qu'on a de travail, ouais. Justement parce que pour faire en sorte que ça... Ben, pour faire en sorte que notre vie intime aussi puisse exister sans le cadre et le spectre du travail. Ouais. Mais cette relation-là, en effet, elle nous suit tout le temps. T'sais. Puis je pense que c'est ce qui est beau dans l'idée de pouvoir travailler ensemble.
Puis on fait confiance à la salle de répétition, à ce qui arrive en salle de répétition, oui. Beaucoup, là, quand même. Oui, bien dans sûr. Le sens que il y a une série de gestes qui sont créés, mais on les assemble en salle de répétition. Oui. Il y a quand même quelque chose aussi du momentum, puis de l'inspiration surprise qui crée aussi ce qui exige un dialogue un peu plus soutenu pendant les répétitions puis à l'extérieur des répétitions, mais il y a quand même beaucoup d'impulsivité.
Mais moi, ça me fait penser que, en fait, je trouve qu'il y a un lien qui se crée dans la création qui est vraiment différent de toutes les autres relations qu'on a dans la vie. C'est comme tout le monde, quand tu arrives quelque part puis que c'est des gens du milieu théâtral, on dirait que tout le monde se connaît, tout le monde est ami, tout le monde est comme ah, câlin et tout. Pis c'est comme, c'est parce que dans le fond, quand on crée, moi j'ai l'impression qu'on crée plus quand on crée pas. Genre. C'est un peu ça que vous dites.
Complètement.
Pis c'est ça, genre, c'est pour ça que, mettons, moi avec le festival, je l'ai beaucoup vécu que, genre, les gens avec qui on crée, c'est nos amis. Fait que là, comme, il y a plus de barrière entre genre, tu sais, cette semaine, genre, j'appelais la directrice générale, puis comme, on se parle jusqu'à 3 h du matin, puis des fois, c'est comme, il y a des trucs de festival qui arrivent, d'autres fois, c'est genre des niaiseries. C'est comme, genre, tout le temps, un peu dans. Genre, faut apprendre à doser aussi, parce que le danger, il repose vraiment. Peut-être là-dedans. Mais, c'est ça. Fait qu'il y a comme cette sensibilité-là à l'autre, qui fait comme, on se montre plus vulnérable dans la création, puis après, on n'a comme pas le choix de s'apprécier en dehors, puis de comme.
Oui, penser, vraiment.
C'est ça. Fait que quand on passe ça ensemble.
Mm-hmm. Oui, puis Métienne parle, ça me ramène à l'authenticité qu'on parlait. Tu la nommes pas l'authenticité, tu es en train de la vivre on the spot, puis c'est ça qui génère ton excitation, ta volonté d'être là, puis de OK, on vit, on est là, on est en train d'écrire, puis on le pense pas, tu sais. En ce moment, on est en train d'écrire, vous le savez pas, là.
Oui.
Des maisons.
Mais c'est comme si, puis l'humain cherche toujours le plaisir, genre. Puis quand tu es avec des gens qui te procurent du plaisir, c'est comme, on dirait que tu es stimulé, puis tu as envie de créer. Oui. Fait comme, faut créer dans la joie et la bonne humeur, puis les fous rires. Et comme, Dieu sait qu'il y en a des fous rires.
100% d'accord avec tout ça.
J'avance. Non, tu cries.
Oui, j'ai. Puis, Olivier, comment ça a été de prendre la barre du trident?
Ben, c'est une autre forme de création dans le sens où. Tu sais, les commentaires du public, ça pullule. Puis sur Internet, il y en a beaucoup. Il y en a eu davantage pour certaines productions que d'autres parce que c'était plus touché à recevoir dans des formes qui sont moins narratives, qui sont plus performatives, etc. Puis ce que mon équipe a fait, c'est qu'ils m'ont barré les commentaires de tout ça parce que ça peut être comme vertigineux pour moi. Puis je leur ai dit, ben, de toute façon, pour moi, ma création, c'est les 5 spectacles. Pour moi, je m'adresse, oui, je m'adresse au au spectateur à la pièce, mais je m'adresse surtout à celui ou celle qui veut vraiment traverser la saison au complet. Fait que moi, déprécier tout un spectacle puis en adorer un autre, c'est un équilibre parfait. Mm-hmm. Je ne m'attends pas comme directeur artistique que tous les spectacles soient appréciés au même niveau par tout le monde, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une forme de ligne rouge puis d'osmose, puis que ça prouverait que c'est une direction artistique avec une seule vision, mon sens intérieur. Fait que c'est sûr que ce serait plus gratifiant que tous les spectacles plaisent à fond, mais je me dis qu'après Orphée, je vais voir tout ça, puis je vais essayer de comprendre finalement c'est quoi le chemin qui les traverse, puis comment on peut trouver des manières de faciliter la compréhension pour d'autres formes théâtrales que les formes qui sont plus narrées. Fait que je dirais que c'est difficile à certains égards parce que c'est vraiment denti. Puis quand ça plaît beaucoup à certains, des fois ça déplaît à d'autres, dans le sens où des fois c'est le milieu artistique qui tripe à fond sur une proposition, moins les abonnés, des single tickets, oui. Puis dans d'autres cas, c'est d'autres. Fait qu'il y a toujours des gens qui sortent d'une expérience théâtrale avec beaucoup d'enthousiasme, puis il y a toujours des gens qui sortent avec la déception. Oui. Puis d'apprendre à naviguer dans tout ça, ça fait du bien. Mais surtout, je trouve que ça ramène l'humilité puis la fonction initiale de ce qu'on fait comme au centre de l'œuvre. Puis je trouve que j'apprends beaucoup parce que j'aurais jamais eu ce discours-là avant avec vous de dire faut jamais oublier la communication, puis comment s'opère la communication, donner les bonnes clés de compréhension pour que la personne comprenne, puis qu'elle sorte de là quand même avec en ayant l'impression d'avoir investi une partie de son temps, son énergie, ses moyens financiers, puis ressortir avec quelque chose. Fait que c'est sûr que ça m'apprend beaucoup sur cette connexion-là avec le spectateur, la spectatrice. Puis c'est sûr que cette année, qui était ma première saison, au final, j'en ressors assez fier de dire on ne sait pas précisément à quoi s'attendre des 5 shows du Trident cette année parce qu'ils sont trop différents.
Oui.
Fait que ça, je pense que c'est la petite satisfaction. La saison n'est pas finie, il reste un spectacle, mais c'est la satisfaction que j'ai au moment présent de me dire si c'est un espace où on ne sait pas trop à quoi s'attendre puis qu'on va voir des œuvres fortes mais qu'on ne saura jamais la manière dont ça va s'opérer, j'ai l'impression que
c'est gagné.
On veut toujours plus de monde, puis on veut toujours plus de moyens financiers pour que l'année d'après, il y ait plus d'artistes sur scène.
Oui.
Mais on veut aussi que la culture artistique se transforme. Fait que c'est comme jouer sur les deux pôles.
T'as une grande couverte, puis tout ça de tous les bords.
Exact. Faut que tu décides de quel côté ça tire pour ce spectacle-là, mais que finalement, il y a souvent.
À quoi est-ce qu'on s'attend pour la suite,
individuellement,
collectivement? À quoi est-ce qu'on s'attend?
Ce qui nous attend quand même beaucoup de projets communs. On a toujours l'appétit de poursuivre une réflexion collective par rapport au théâtre et à la danse, puis à ce jumelage de ces deux trucs-là. Prendre la route aussi. Prendre la route parce qu'on essaie de voir comment on peut voyager autrement, puis aller dans des lieux plus inusités par le biais d'une voiture et d'un lit dans une voiture. Sinon, à quoi qu'on peut s'attendre?
Wow, Oli, mais t'as bien résumé ce qui s'en vient, là. J'adore.
Ben puis après, moi, j'aimerais ça... je le lance, là, mais ça se peut que ça arrive jamais. Mais j'aimerais ça écrire un objet qui serait pas destiné pour la scène. Mais ça arrivera peut-être pas, là. Il n'y a rien entamé. Là.
Mais dans l'univers?
Oui, mais c'est comme quelque chose qui m'apparaît. J'aimerais ça parler du corps, mais que la personne puisse y avoir accès chez elle. Et non pas être en performant, pas performer le corps, mais le décrire. Toi, Fabien?
Wow!
Parle de tes petits livrets, là, tes livrets photos.
Oui, des folioscopes. J'ai grâce au pieu, là. Le pieu, l'atelier d'auto-édition. Et d'auto-impression à la Charpente des Fauves, je veux pas dire caverne d'Alibaba parce que c'est pas à cause de la multiplicité d'objets qui est là, mais c'est à cause de la préciosité, la richesse des ressources et des personnes qu'on y retrouve. J'ai réalisé une série de carnets des folioscopes, donc des carnets d'animation que t'actives là, avec ta main. C'est comme c'est image par image, puis tu peux faire comme un petit film très rudimentaire. Il y a quelque chose de ça que je veux continuer de poursuivre, donc j'essaie de trouver la bonne forme pour le faire. Il y a quelque chose qui se positionne de manière très douce là, en fait, par rapport à la matérialité, tu sais. Puis ça fait référence, justement, je trouve, à la présence du corps dans les objets artistiques. C'est qu'on n'a pas besoin d'une... Idéalement, on n'a pas besoin d'une technologie numérique pour pouvoir vivre, puis pour pouvoir être chamboulé, puis pour pouvoir réfléchir, puis philosopher. Fait qu'il y a ça. Sinon, ben en effet, on a des projets de collaboration au théâtre, Olivier et moi, qui s'en viennent. Il y a Pisser debout sans lever sa jupe, qui s'en vient aussi, qui est la, comment dire, la poursuite de ce projet-là, qui est extrêmement importante, en fait, dans ma vie artistique. Fait que ça s'en vient bientôt. Puis sinon, ben c'est sûr qu'il y a toujours une quête d'équilibre, puis on est vraiment privilégié de pouvoir réfléchir à ça, on en convient. Il y a une quête d'équilibre entre ce qui appartient au travail puis ce qui appartient aussi à autre chose que le travail, pour pouvoir éventuellement l'enrichir, certes, mais pas juste pour utiliser les vacances tout de suite avec une finalité, mais aussi pour pouvoir se... comment dire, se décontextualiser, tu sais, puis être traversé. Je nourris une sensibilité, je pourrais pas mettre de mots à quel point est-ce que cette sensibilité-là me touche par rapport au paysage, puis on se rejoint, Olivier et moi, là-dessus. Fait que je pense qu'il y a ça aussi là, qui devrait... On va vivre des projets de voyage aussi en voiture là, cet été. Fait que ça,
chercher ça, des paysages.
C'est comme genre une chasse au trésor.
Oui. Vraiment.
Mais s'imprégner de paysages, tu sais, puis vivre la matérialité aussi, une matérialité qui dépasse le cadre des locaux, puis du travail, tu sais.
Qui est en courbe.
Oui.
Qui n'est pas rectangulaire.
Chercher les courbes.
Exact.
Puis c'est Paryse Martin qui m'avait dit ça, une belle pensée pour cette femme, qui me disait qu'on avait besoin de se retrouver face à l'infini, en fait. Mm-hmm. Puis que d'être face à l'infini, ça nous donnait accès à l'infini en nous. Je pense que ça, on ne peut le vivre que face à des... qu'en étant à l'extérieur et en étant immergé dans la nature. Okay. Ouais.
Puis, je terminerai avec la question qui tue. Et si vous aviez un conseil à donner aux futurs artistes, ça serait quoi?
Ben, ça va aller avec un peu tout ce qu'on a dit, là, mais de rire de soi. Il n'y a rien qui est plus touchant que quelqu'un qui avec humilité, dépeint ses pires travers. Fait que je pense que c'est la meilleure manière d'atteindre un public, d'atteindre n'importe qui. C'est par l'humilité, c'est par l'humour, par l'autodérision. Je trouve que c'est une arme à tout, là. Avec l'autodérision, quelqu'un qui fait de l'autodérision, moi, ça me charme au plus haut point, là, tu sais... Moi, je suis, malgré tout, tu sais, un peu saupoulé. Puis quand je suis saupoulé, on dirait qu'après, je me fais l'effort de revenir sur le fait que j'étais saupoulé pour essayer, tu sais, on jouait aux cartes avant-hier. Puis j'étais comme insulté par quelque chose qu'on me rappelait constamment parce que, bon, j'avais mis Madame de Pique, puis j'avais changé d'idée. Puis là, il m'avait dit que j'avais déposé ma carte sur la table. Bref, vous voyez le genre de situation. Puis après, de faire, ben oui, je suis saupoulé à fond, là, dans le fond. Puis continuer à me narguer, ça m'apaise et ça me nettoie de ses pires défauts.
Wow! Et en complément à ce conseil, en fait, ou à... Parce que je veux dire conseil, mais c'est quelque chose que je aussi sur lequel je pense qu'il est central, en fait, qu'est-ce que je travaille. Ou c'est une quête là, personnelle en ce moment. Là. C'est, je pense, d'accorder de l'importance aux voix autour de soi, mais pas trop, en fait. Parce que ces voix-là peuvent nous distraire ou peuvent nous dévier de nous-mêmes puis de la place qu'on peut laisser... Comment dire, la place que notre enfant intérieur peut prendre. En fait.
C'est que dans le fond, il ne faut pas se prendre au sérieux. Parce que quand on se prend au sérieux, ben, on manque le point, je pense, de communiquer avec le public. C'est comme quand tu es trop dans ta tête, ça ne marche pas.
Puis aller dehors.
Oh mon Dieu. Oui, il faut respirer.
Waouh, pas se prendre au sérieux et faire le travail avec sérieux.
Oui.
Ouais.
Oui.
Oh.
Mais faire beaucoup de jasettes. Ça, c'est ma passion.
Donc, Fabien, Olivier, oui. Merci d'être venu au podcast. Enfin, je suis là aussi. Merci d'être venu au podcast.
Merci François. Merci Noémie. Merci le futur.
Oui, merci infiniment le Festival de théâtre de l'Université Laval. Bon festival.
Merci.
N'oubliez pas d'aller visiter lefutul.ca pour avoir accès aux autres épisodes du balado Levé de rideau gratuitement, ainsi que pour découvrir la future programmation.
Cette émission a été réalisée avec l'aide du comité organisateur de la 10e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval, c'est-à-dire Eleonor Goss-Franceschini, Noémie Lavertu, Valentine Sanson et Clara Bruno. François Coulombe-Rozon était chargé de la production du balado. Nous tenons aussi à remercier Victoria Pelletier au montage, Adèle Falardeau à l'idéation et Louis-David Gingras pour la musique originale.